Voilà. Donc, j'ai appris la philosophie au départ, mais j'ai surtout appris la phénoménologie husserlienne, parce que j'avais un prof qui nous enseignait ça, et puis le marxisme. J'étais très fort en marxisme, j'étais moins fort dans beaucoup d'autres, sur beaucoup d'autres auteurs, mais j'étais très fort en marxisme quand j'étais très jeune. Voilà. Et alors, en fait, d'une certaine façon, je me suis toujours intéressé à la morale, peut-être à cause de ces engagements. Le premier travail universitaire que j'ai fait, ma maîtrise, ça portait sur le style de travail de la révolution culturelle chinoise. C'était Yankelevitch qui me dirigeait à l'époque, qui avait accepté, parce que c'était un homme très libéral, qui avait accepté ce sujet. Donc le style de travail, pour moi, c'était la morale pratique. Hein. Et ma première thèse, c'était sur... je ne sais plus comment ça s'appelait, mais je l'ai faite avec un ami qui s'appelait Yves Lescaut. On a fait cette thèse ensemble. Donc c'était sur la philosophie pratique des gauchistes. Donc d'une certaine façon, la philosophie pratique, c'est comme ça qu'on appelle la morale dans la tradition philosophique. Donc d'une certaine façon, je me suis toujours intéressé à ça. Et bon, il s'est trouvé que, vous l'avez rappelé, au moment de ma thèse, enfin de notre thèse sur le gauchisme de 68, qui était dirigée par Pierre Ansart, j'ai rencontré François Isambert, qui est un sociologue important, qui a fait son œuvre pour partie en sociologie de la religion, pour partie, c'est-à-dire pour la première partie, en sachant malgré tout que ses intérêts étaient ceux de... C'était ceux du socialisme ancien, pour ainsi dire, si on peut dire. C'est-à-dire le socialisme moral du 19e siècle. Il avait fait une thèse sur certains socialistes aujourd'hui oubliés. Donc il connaissait très très bien toute cette tradition morale du socialisme. Lui-même avait aussi sa propre histoire. Et la deuxième, donc il venait de la sociologie de la religion, mais au moment où je l'ai rencontré, il était en train de créer ce laboratoire au CNRS qui s'appelait Éthique, qui s'appelait, c'était l'équipe de sociologie de l'éthique et des pratiques symboliques. Donc c'est à ce moment-là que j'ai rejoint ce labo. Où il était moins question des pratiques symboliques que de l'éthique, puisque c'est de ça qu'on s'intéressait principalement. Donc d'une certaine façon, j'ai toujours baigné dans la sociologie morale. Enfin, ma thèse de troisième cycle, c'est comme ça qu'on appelait à l'époque, c'était la thèse de troisième cycle, c'est une sociologie de la connaissance. Mais comme elle portait sur la philosophie pratique, c'est-à-dire en fait sur des gauchistes, des militants d'extrême gauche, donc ça traitait aussi d'une certaine façon des engagements moraux. Voilà. Donc comment je réponds à votre question, je peux ne pas en dire plus. Alors si quand même la psychologie évolutionnaire et les à côté des disciplines, j'aurais beaucoup à en dire. C'est évident que quand on s'intéresse à je vais dire un petit mot là-dessus parce que ça va aussi me permettre d'expliquer un peu comment j'entends la sociologie morale. Quand on s'intéresse à la morale, bon, on peut dire que d'un côté c'est une discipline académique, une discipline philosophique, avec beaucoup d'auteurs. Il n'y a pas une éthique, il y a des auteurs philosophiques qui ont élaboré l'éthique de différentes façons, avec souvent beaucoup de recoupements. Les plus grands d'entre eux, comme par exemple Kant, ils considéraient que sa morale était celle de Monsieur Tout-le-Monde, qu'elle était d'une banalité absolue, parce que la morale n'avait pas à être inventée, mais il en donnait des justifications. Et souvent, les philosophes, tout en faisant des élaborations plus ou moins, enfin toujours complexes, mais parfois très particulières, défendaient l'idée qui, la plupart du temps, se rapprochait de la morale ordinaire. Donc finalement, il y a des disciplines philosophiques de la morale qui sont différentes. Hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je pourrais répondre à des questions là-dessus. Mais avec généralement en point de mire, ce qu'on pourrait appeler la morale ordinaire, la morale des gens dans la vie ordinaire. Alors, je dis généralement, parce qu'il y a quand même des traditions qui ont voulu un peu s'éloigner de la morale ordinaire, aller contre l'intuition commune. Par exemple, les utilitaristes. Hein. Les utilitaristes pensaient que si on voyait vraiment la morale comme il faut la voir, c'est-à-dire la somme de bonheur pour le plus grand nombre, eh bien, il faut s'éloigner de la morale parce qu'il y a quelquefois des conceptions ordinaires de la morale qui n'iront pas là-dedans. Donc, c'est parti d'une certaine façon d'une sorte de dérive scientifique, si on peut dire, de l'éthique, parce qu'au nom de l'utilitarisme, on pouvait rompre avec des sentiments moraux ordinaires, accepter des pratiques qui pourraient paraître immorales du point de vue du sens commun, etc. Bon, mais d'une façon générale, les philosophes, y compris Aristote, mais les chrétiens, Kant, ne cherchaient pas à rompre avec la morale ordinaire, ils cherchaient simplement à l'élaborer. Donc, il y a la partie philosophique, je vous dis, on peut parler, mais il y a ce point de mire qui est la morale ordinaire. Alors, la morale ordinaire, qu'est-ce que ça peut être ? Et donc, c'est beaucoup à ça qu'on s'est intéressé dans l'équipe de sociologie d'éthique, et puis après, ça a été, quand Isambert et Ladrière ont pris leur retraite, ça a été rebaptisé Centre de sociologie de l'éthique, du centre de recherche Sens Éthique Société, voilà, c'est exactement. Donc ça, c'était dans les années 90, donc c'était le labo qui héritait du labo d'Isambert et qu'on avait recréé avec Ruven Ogien et Simone Batman. Ruven Ogien, qui est un philosophe que vous connaissez peut-être, et Simone Batman, qui est vraiment une spécialiste de la médecine et du corps aussi, hein, d'une certaine façon. Voilà. Donc, ce qui nous a quand même beaucoup préoccupés, c'est qu'est-ce que peut être cette morale ordinaire. Donc, par les enquêtes qu'on pouvait faire, par les recherches les recherches plus théoriques qu'on pouvait faire. Moi, en fait, si vous voulez, ce que j'entends par sociologie morale, c'est le fait de s'intéresser donc à la philosophie pratique de n'importe qui, hein, mais pas de n'importe qui répond à une enquête, par exemple, quand on lui demande quelle est la valeur la plus importante pour vous, est-ce que c'est la liberté ou l'égalité, qui penche plutôt pour l'égalité ou plutôt pour la liberté. Ces enquêtes ne sont pas sans valeur, mais la morale de n'importe qui, la philosophie pratique de n'importe qui, lorsqu'il est confronté à une question qui est importante pour lui, qu'il s'agit de la question de ses amours, la question de ses consommations, la question de ses amitiés, la question de ses engagements. Quelque chose qui lui tient à cœur, qui lui tient à cœur. Voilà, donc c'est ça l'objet. C'est ce qui tient à cœur à n'importe qui, hein, à n'importe qui dans sa vie. Alors ça ne veut pas dire que les gens sont nécessairement moraux. Des fois, il y a des choses qui leur tiennent tellement à cœur qu'ils sont prêts à faire n'importe quoi. Mais ils sont confrontés tout le monde est confronté par rapport aux choses qui lui tiennent à cœur dans sa vie, à ses propres choix et puis à tout ce qu'on peut dire autour de lui, c'est-à-dire toute la communauté, tous les gens qui ont quelque chose à dire sur ce qui est vertueux, ce qui l'est pas, sur ce qui est bien, sur ce qui est mal. Ils sont confrontés, en gros, à un horizon d'obligation sociale qui vient du fait qu'on vit dans le commun, qu'on partage toujours la vie d'une communauté, je reviendrai peut-être si je parle de la psychologie évolutionnaire, c'est-à-dire qu'aucun humain ne serait là s'il n'y avait pas eu des groupes, s'il n'y avait pas eu d'abord des parents pour les amener à l'âge adulte, des partenaires sexuels et des groupes pour les protéger. Donc voilà, donc c'est à ça. À la fois, on est intéressé essentiellement par certaines choses. Hein, donc je parlerai un peu des problèmes d'addiction à un moment, parce que ça, c'est très caractéristique, mais on peut être aussi intéressé par ça. par une œuvre, on peut être intéressé par un travail, par un amour, etc. Et c'est là, effectivement, qu'il y a vraiment le creuset de la morale, le creuset d'existence. À un moment, on parlait d'existentialisme moral. Et puis, on est sous la réflexion, pas seulement philosophique, mais surtout celle des autres, qui peut conduire à faire... qui peut nous amener à faire n'importe quoi, malgré tout. Mais que lorsque, malgré tout, donc, on fait n'importe quoi, il faut en rendre compte. Alors, il se trouve, en fait, c'est une des choses, bon, on en parlera aussi peut-être plus en détail, il y a eu, dans l'histoire de la philosophie, beaucoup de tentatives pour sortir d'une vision de la morale ordinaire où on a à s'occuper des choses qui nous importent, mais en tenant compte justement de contraintes morales qui nous dépassent, qui appartiennent au groupe, etc. Alors, j'ai parlé de l'utilitarisme qui prétendait que la morale pouvait être le résultat d'un calcul. Et alors, pour aller beaucoup plus loin, je pense aux philosophies néoconservatrices qui ont eu beaucoup d'importance dans ce qu'on appelle le tournant néolibéral des années 80, parce qu'au nom de ce que des auteurs comme Hayek, par exemple, mais d'autres, considéraient comme étant une morale, arrivaient à l'idée que la seule morale qui comptait, c'est celle de la défense de sa vie et de sa propriété, étant entendu que qu'appartient à l'individu non seulement son corps, mais aussi son travail et tous les fruits de son travail. Et considérant qu'en dehors de ce domaine-là qui nous oblige, rien ne nous oblige. C'est-à-dire que, par exemple, ces auteurs étaient très opposés à l'état social en général et très, très opposés à toute idée d'imposition sociale, à toute idée de redistribution, parce qu'ils considéraient que la redistribution sociale était une spoliation du travail. Et ils le faisaient au nom de raisons éthiques, une éthique de la propriété de soi. Hein. Donc, voilà, ça c'est certaines parties de la morale qui sont en rupture en fait avec ce qui est l'expérience ordinaire de la morale, où on est confronté à des choses qui nous importent énormément, où il faut qu'on fasse des choix et où on a une société autour de nous qui nous dit des choses sur la morale. Voilà en gros comme présentation. Maintenant je peux dire les choses de façon beaucoup plus détaillée après.
D'accord. J'aimerais revenir, s'il vous plaît, sur votre héritage, entre guillemets, notamment votre collaboration avec François Isambert, qui parle de sociologie de l'éthique. Vous parlez de sociologie morale. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous avez retenu, finalement, du programme de recherche d'Isambert, pour synthétiser un petit peu l'article dont je faisais mention en introduction de cette séance, qui se situerait plus du côté d'une sociologie de l'éthique au sens weberien, donc une sociologie des obligations morales que l'on retrouve
chez Durkheim.
Voilà.
Mais je peux vous répondre sur ce que pensait Isambert. Parce que bon, il l'a écrit aussi dans beaucoup d'autres articles. En fait, bon, pour les sociologues hein, qui font de la sociologie de l'éthique ou de la sociologie morale, moi je fais pas, ou de la sociologie de la morale, je fais pas de différence. Je dis sociologie morale, bien que ça puisse paraître mettre la morale non seulement du côté de l'objet, mais aussi du côté du chercheur, parce que simplement, je pense que c'est très difficile de s'intéresser à un objet tel que la morale. Sans se mêler soi-même de morale, hein, sans se mêler soi-même de morale. Alors, pas le faire de façon arbitraire, pas le faire n'importe comment, mais se je ne pense pas qu'on peut repérer la morale dans la vie courante sans s'interroger sur les vertus, sur la question du bien, du mal, sur la question des valeurs, etc. Et donc la morale, donc, elle est bien sûr du côté des gens auprès de qui on enquête et dont on essaye de connaître la vie, les pratiques, les sentiments, etc. Mais elle est du côté du chercheur qui les observe. Donc en fait, lui, il disait sociologie de l'éthique, parce que dans l'article en particulier, bon, d'abord, quand ils ont écrit cet article, une des choses qui les frappait, c'est que, donc c'était à la fin des années 70 ou au début des années 80, l'éthique avait été quand même délaissée dans la tradition philosophique. Elle occupait une grande place dans la philosophie française, par exemple, et elle avait été délaissée. Elle avait même dans la philosophie analytique aussi, elle n'avait pas une énorme importance à ce moment-là, alors qu'il y avait une tradition de grands auteurs. Et en sociologie en particulier, l'éthique, on en parlait guère. Ben, Gurvitch s'y intéressait, mais bon, c'était pas central. Et moi, au tout début, je faisais des enquêtes de sociologie du travail. Bon, l'éthique, on l'a retrouvée au travers des histoires de conscience professionnelle, de solidarité, d'obligation vis-à-vis du groupe, etc. Moi, dans les premières enquêtes que j'ai faites, c'est à ça. C'est à ça que je m'intéressais. Mais ce qui les frappait au moment où ils ont écrit cet article, Lisambert, Terre-Noir et Ladrière, c'était la résurgence de l'éthique à propos du corps humain, à propos des débuts et de fin de vie. Tout simplement parce qu'on se trouvait avec des nouvelles questions, avec des questions qu'on ne pouvait pas poser avant, c'est-à-dire des questions sur la vie et la mort, sur la possibilité d'interrompre une vie, au contraire de la rendre plus sûre, plus protégée, qu'on ne pouvait simplement pas se poser avant parce qu'on n'avait pas les techniques médicales pour ça. Or, c'est apparu à partir... Bon, alors, ça a été les débats sur l'interruption de grossesse qui a beaucoup relancé tout ça, mais on s'est en fait aperçu à partir de ça qu'il y avait... toutes sortes de questions qui se posaient en éthique médicale. Donc c'était l'éthique médicale qui était finalement et la médecine en particulier, qui était le secteur de la société, si on peut dire, dans lequel les questions de morale reprenaient une importance qu'elle avait eu tendance à perdre dans la tradition philosophique courte, disons, en France. Voilà. Mais faisant cette réflexion, il ne pouvait pas non plus se dire que l'éthique n'appartenait qu'aux médecins, aux gens qui s'occupent de soigner les malades, etc. Il était évident qu'on allait la voir surgir dans le travail, dans la politique en particulier. La politique, c'était très important. C'est pour ça qu'on a consacré aussi une grande partie des travaux dans les séminaires d'Isambert, du Centre de sociologie de l'éthique, à la politique, à l'éthique politique. Bon. Et alors, ce qu'on a fait souvent dans ces séminaires, parce que c'était l'usage, on travaillait comme ça, on lisait les textes, donc on lisait les grands auteurs, on lisait les philosophes, on lisait les philosophes politiques, en l'occurrence Locke, Rousseau, Hobbes. Mais pour ce qui est de la sociologie proprement dite, on avait évidemment les deux références majeures. Bon, Isambert s'intéressait aussi beaucoup à Parsons, et il avait raison, parce que bon, la sociologie de Bourdieu est quand même en large partie une héritière de la sociologie de Parsons. Mais les deux sources, si l'on peut dire, c'est l'idée durkheimienne de la morale comme obligation sociale d'abord. Hein. Il y a même Durkheim disait on cherche en sociologie un réactif comme on a des réactifs en chimie. Et quel est ce réactif par rapport à un comportement qui serait moral ou pas moral? C'est que la société dit non ou oui. Voilà, c'était ça. Durkheim expliquait des choses comme ça. Alors, ce n'était pas très satisfaisant le fait de voir la morale uniquement du point de vue de l'obligation. Pour Durkheim lui-même, c'est pour ça qu'il a introduit dans beaucoup de textes l'idée de l'attractivité. C'est quelque chose qui nous oblige, mais en même temps, vis-à-vis de laquelle, vis-à-vis de quoi on a une attraction. Une attraction, alors simplement, ça c'est lié à toute sa théorie de la formation sociale de l'individu, c'est-à-dire que c'est la société qui nous a créés, qui nous abreuve, qui nous donne la réflexivité, qui est notre matrice à tous. Et en même temps qu'elle nous oblige, elle nous fait désirer ce qu'elle nous impose. Voilà, ça c'est Durkheim d'un côté. Donc Isambert rend des comptes de ça en y adhérant en large partie. Mais il y avait de l'autre côté la vision de Weber qui voit la morale comme l'éthique, comme la perspective que l'on donne à une pratique. Bon, et notamment l'idée d'une vocation. Alors d'une certaine façon, je pense que Isambert, et peut-être moi aussi d'ailleurs, croyait que le modèle de la vocation de l'homme de science, c'est-à-dire celui qui fait son boulot aussi rigoureusement qu'il peut le faire, qui mène sa vie aussi rigoureusement qu'il peut le faire, constitue une sorte de modèle de la morale. Voilà. C'est vrai évidemment pour l'homme de science tel que le voit Weber. Mais je pense que c'était vrai aussi pour Isambert dans sa façon de concevoir. Alors, non seulement le travail, la vie quotidienne du bon bourgeois ou du bon académique, mais de l'homme qui est dans le siècle. Hein. Isambert est un ancien résistant. Sa femme, Viviane Isambert, qui est aussi une grande sociologue, avait reçu la médaille de la résistance. Et donc, il considérait cette morale de la vocation, de la vocation de l'homme dans son travail, mais aussi dans son siècle, donc ça ne s'arrête pas à la porte de l'université. Donc c'est un peu comme ça qu'il voyait les choses, faire les choses qu'on a à faire au moment où on allait faire en les faisant aussi bien que possible. Et si on lui posait la question à Isambert de savoir si par exemple, moi je lui ai posé la question, si faute de certitude sur la façon de s'engager dans le monde, par rapport à un état du monde qui nous catastrophait déjà il y a 40 ans, mais qui nous catastrophe encore davantage, si on peut justement réduire sa vocation éthique, si on peut parler comme ça, au fait de faire ce qu'on a à faire sans nuire à personne, en respectant ses engagements, etc., mais sans se mêler de ce qui nous dépasse, sur lequel... Alors oui, la réponse d'Isambert était de dire non, non, on ne peut pas. On ne peut pas ne pas s'en mêler, parce que je réponds aussi. Et voilà. Donc c'était ça l'inspiration du groupe de sociologie, de l'éthique ou de morale. Alors, Ladrière lui-même, c'était un Kantien. Et je vais vous dire un petit peu quelques mots sur Ladrière, parce que ça va me permettre aussi de donner le contexte de l'époque. Donc, Ladrière, c'est quelqu'un... Ça vous intéresse ce que je vous raconte, hein, voilà. Vous m'interrompez si... Donc, Ladrière, il a fondé ce centre de sociologie morale avec François Isambert. Et en fait, il avait un passé... Il est belge. Il était belge parce qu'il est décédé lui aussi. Et il était prêtre. Et il a quitté la prêtrise. Il est venu à Paris où il est rentré au CNRS. C'était un théologien, un bon théologien. Il avait un frère qui est un épistémologue important qui s'appelle Jean Ladrière, qui a fait une œuvre d'épistémologie importante. Voilà. Donc c'était de ça qu'il venait. Et il était kantien, c'est-à-dire que pour lui, sa façon de résister au clergé, à la hiérarchie de l'Église catholique, etc., c'était l'idée que les hommes sont libres et qu'ils peuvent choisir, sortir de l'ordre en particulier à un moment. Et il trouvait, pensait-il, dans Kant, l'essentiel des bases philosophiques pour penser ça. Sachant qu'il n'était pas le seul, hein, faut voir quand même que tout le XXe siècle, enfin, toute la pensée, enfin, pas toute, mais une grande partie de la pensée morale du XXe siècle, quand même, en psychologie en particulier, hein, a été, en psychologie du développement, a été influencée par Kant. C'est-à-dire que des gens comme Piaget pensaient que l'état moral, c'est l'état qu'on atteint à un certain stade. Et puis tous ses descendants aussi aux États-Unis, tous les héritiers de Piaget aux États-Unis ont développé un peu la même chose, avec des expériences qui était un peu différente, mais que c'était un peu la même chose. C'est l'idée que c'est au moment où on agit de façon désintéressée, indépendamment des conséquences, et en obéissant à la loi morale qu'on trouve en nous, hein, à la loi morale, que, non pas aux normes, etc., mais à la loi morale que l'on trouve en nous, non seulement qu'on est libre, mais qu'on agit comme il faut agir. Donc là, il y avait une très forte influence du kantisme qui est dans la psychologie, qui revenait aussi. Qui, en sociologie, elle a eu aussi son importance. Peut-être pas. Elle a eu aussi son importance chez Durkheim et Weber aussi, chez les sociologues importants de l'époque comme Bourdieu par exemple, un petit peu moins même chez Boudon. Mais voilà. Mais elle a eu aussi. Beaucoup d'importance, disons, ce filon de kantien dans une philosophie sociale qui a eu une grande importance, qu'il y en a aussi encore aujourd'hui, c'est la théorie communicationnelle de Kant, qui s'inspire en grande partie du modèle kantien. S'il ne faut pas instrumentaliser les autres, s'il faut traiter les autres comme des fins, s'il faut donner aux autres les moyens de mettre en doute jusqu'à ce que je lui dis moi-même, etc., s'il faut les considérer uniquement comme ça, c'est une façon d'appliquer Marx à la théorie de la... d'appliquer Marx, pardon, mais avec Marx, je ne suis pas si loin de Kant que ça, d'appliquer Kant à la théorie de la société. Donc voilà, ce qui était la sociologie de l'éthique ou la sociologie morale telle qu'on la faisait au centre de sociologie de l'éthique, au centre de recherche sciences éthiques et société après. Je ne suis pas utilitariste. J'ai été kantien à un moment parce que c'était difficile de ne pas l'être. Je ne suis pas kantien non plus. Mais mes références principales, c'était plutôt Aristote, hein, la théorie de l'action telle que la voit Aristote, et des vertus. Et puis Hume, c'est-à-dire une vision très empirique des choses, très, très empirique des choses. Donc, qu'est-ce que ça fait, ça, quand on est sociologue? Bon, ça oblige à lire un certain nombre de choses. Et puis, quand on s'intéresse à des questions pratiques, comme je l'ai fait à différentes périodes de mon parcours de chercheur, ça implique d'étudier la façon dont les agents de la vie sociale, les acteurs, comme on dit, donnent de l'importance à certaines choses, les raisons pour lesquelles ils le font, les sentiments avec lesquels ils le font, etc. Voilà. Mais je vais peut-être. Il y a une autre chose que je voudrais dire, si vous permettez. Mais à moins que vous vouliez. Voilà. Parce que j'ai été un peu. Parce que vous avez pointé, enfin, en m'invitant. D'abord, j'étais honoré que vous m'invitiez. Mais vous me proposiez un titre. Qui était de la sociologie morale à la sémantique, de la sociologie morale à la sociologie du corps.
À la sociologie des passions.
Ou à la sociologie des passions. Pas du corps.
Non.
Il n'y a pas ça du tout dans le titre?
Non, il n'y a pas.
Bon, alors c'est moi qui ai halluciné. Enfin, non, en fait, oui, parce que la sociologie du corps. Mais vous en faites de la sociologie du corps. D'accord. Donc j'ai vu quelque chose comme ça. La sociologie des passions, oui. Alors là, c'est tout à fait juste. La sociologie du corps, c'est juste aussi, mais ça m'obligeait de réfléchir, vous voyez. Ça m'obligeait de réfléchir en quoi, comment j'avais retrouvé le corps dans tout ça. Et pour dire comment j'ai. Donc je voudrais réagir à votre titre. Parce que donc, j'ai raconté un peu l'histoire du Centre de sociologie de l'éthique. Mais ce qui s'est passé aussi à ce moment-là, enfin dans mon parcours, c'est que, en fait, quand on veut réfléchir théoriquement sur la morale, même sur la société, il faut réfléchir sur l'action, parce que l'action pas conçue au sens de, comment dire, de quelque chose d'abstrait, mais au sens de des actions qu'on a les plus courantes, les actions de la vie courante, la façon dont on se conduit avec les autres. Donc on s'est beaucoup mis à réfléchir sur l'action. Il se trouve aussi que, moi, dans les enquêtes que j'ai pu faire, mes premières enquêtes en dehors du gauchisme, ça a été des enquêtes en milieu ouvrier, en milieu paysan, donc sur le travail, sur l'apprentissage, puis ce que j'appelais les savoirs sociaux, c'est-à-dire la façon dont les gens ordinaires peuvent catégoriser leur propre situation par rapport à celle des autres, peuvent aussi situer les autres dans différentes catégories, peuvent les juger, peuvent rapporter leur propre comportement à ceux des autres, etc. Donc c'est là-dessus que je faisais des enquêtes. Et sur ces entrefaites, donc, j'ai découvert l'ethnométhodologie. Je vais vous dire deux mots de l'ethnométhodologie, parce que l'ethnométhodologie, ça conduit à tout, et puis ça peut aussi conduire à des impasses. Donc en fait, l'ethnométhodologie, on pourrait dire que c'est une version de l'interactionnisme. Garfinkel était très proche de Goffman. Il faisait des jurys de thèse ensemble. Vous connaissez, je suppose, Erving Goffman, qui est effectivement un sociologue très important, qui a complètement renouvelé la question du rapport à autrui dans la vie sociale, la façon dont on cherche à protéger sa face, et donc pour cela il faut faire attention à autrui. Mais si vous voulez, la grande particularité de Garfinkel par rapport à cette tradition interactionniste qui date d'avant Goffman, c'est d'avoir justement insisté sur comment dire, j'ai pas envie de dire, on peut dire les choses comme ça, mais une sorte d'autoproduction de la société par les gens qui y sont. C'est-à-dire que, alors voilà, je vais dire ce qui est sans doute le schéma clé, à mon avis, de Garfinkel. Vous voyez, dans la sociologie américaine, il y avait, bon, Parsons, il avait digéré comme ça, à sa façon, Durkheim, mais il pensait, en fait, qu'il y avait des normes, et les gens suivent des normes. On leur inculque ces normes quand ils sont petits, et puis après, quand ils sont en situation, ils les reproduisent. Voilà. Et donc, il y a une sorte d'ordre normatif qui conduit la société. Et Garfinkel disait, non, c'est pas du tout comme ça que ça marche. L'ordre, il est fabriqué en permanence, il est reconstruit en permanence. Les gens se rendent compte, et c'est eux qui l'adaptent. Alors, il n'y est pas que les gens pouvaient avoir des influences culturelles, etc. Mais c'était ce travail de... Donc cette action, il parle d'action constamment, ce travail coopératif qui fabrique la société. Et donc évidemment, moi j'ai essayé de mettre ça en relation avec les enquêtes que j'avais faites, avec les réflexions de Max Weber sur le sens de l'activité. Bon, et c'est au travers de ces réflexions-là qu'il y a eu effectivement, on pourrait dire, tout un passage très théorique de mon travail, mais qui rencontrait celui d'autres sociologues. J'étais à l'époque à l'École des hautes études en sciences sociales, où il y avait un groupe de chercheurs très proches de l'ethnométhodologie, Louis Quéret, Bernard Conaille, des linguistes aussi, pas mal de linguistes. Et donc, on s'intéressait à la pragmatique, on s'intéressait à l'action, parce qu'on était ethnométhodologues. À l'époque, on était très convaincus par les thèses des ethnométhodologues. Mais on s'intéressait à tout ce qui fait la pratique ordinaire. Or, là-dessus, il y a une particularité des travaux qui ont été faits dans les années 70, 80, 90. C'était des travaux très abstraits. Je pourrais donner plusieurs exemples. Par exemple, une des théories qui a eu beaucoup de succès, c'est la théorie du principe coopératif de Grice. Je ne vais pas vous raconter cette théorie, mais qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit en fait que le problème de Grice, c'est comment on comprend les intentions des autres. Mais on fait des déductions. Par exemple, si je vous demande un avis, si je demande à un collègue un avis sur un étudiant que je dois prendre ou non dans mon équipe, qui est donc sur ses compétences en sociologie ou en philosophie ou n'importe quoi, et que je vous réponds « Ah, il joue très bien au football », vous aurez peut-être des doutes sur le fait que c'est un très bon sociologue ou un très bon philosophe. Donc voilà, c'est toutes ces questions d'indirection, on regarde vraiment la pratique du langage ordinaire, on regarde, donc c'est très proche de la linguistique aussi, mais on regarde toutes les subtilités par lesquelles on dit les choses sans les dire. La problématique du langage ordinaire elle-même, telle qu'elle a été développée par des chercheurs en France comme Oswald Ducrot, c'est un peu du même genre. C'est des travaux, et même dans l'ethnométhodologie, qui ne font pas une place énorme aux émotions, aux sentiments, aux affects. Hein. C'est des logiques de l'action. Comment l'action se structure. Comment, par exemple, qu'est-ce qui... je pense à la théorie des actes de parole. Comment la parole ne sert pas simplement à dire, mais à faire, lorsque on est habilité à prononcer certaines paroles en certaines circonstances, etc. Donc c'était des travaux qui étaient extrêmement abstraits. Sur l'ethnométhodologie elle-même, il n'y a pas vraiment, dans l'ethnométhodologie de Garfinkel, il n'y a pas vraiment de sociologie des émotions. Les émotions, elles interviennent à certains moments, mais un peu comme des conséquences. Par exemple, il y a ce qu'il appelait les breaching practices, c'est-à-dire quand vous dites des incongruités et que vous rompez, dans une conversation, vous rompez l'ordre ordinaire. Les gens, ils sont gênés, ils expriment des émotions négatives. Donc les émotions interviennent là, mais un peu comme une conséquence de la rupture de l'ordre. L'ordre, il n'est pas, c'est pas un ordre émotionnel, c'est un ordre normatif, logique, il est autoproduit, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Or, ce que je veux vous dire, c'est que la sociologie morale, telle qu'on l'a concevée, telle que je la concevais, moi en particulier, elle mettait au premier plan la question de l'action ordinaire, des actes courants, des actes vis-à-vis des autres, etc. Et les outils qu'on utilisait à ce moment-là, c'était des outils assez abstraits, assez désincarnés. C'était la théorie de la communication de Habermas, c'était l'ethnométhodologie de Garfinkel, c'était la pragmatique du langage ordinaire. Moi, j'appelais ça la sémantique de l'action, c'est-à-dire toute une tradition philosophique qui s'intéresse à la façon dont on construit le sens, dont on le comprend, etc. Et pas autant, et même beaucoup moins, à la question des sentiments, à la question des émotions. Et ça, c'était extrêmement gênant. Il se trouve aussi que dans cette période-là, moi, je me suis aussi beaucoup intéressé aux sciences cognitives. Bon, c'était l'époque aussi où l'intelligence artificielle commençait à apparaître et où il y avait aussi beaucoup de discussions sur la part dans l'intelligence du raisonnement. C'était l'IA classique, c'est-à-dire on essayait d'imiter le raisonnement par une machine, le raisonnement humain à partir de règles de production dont on va déduire des conséquences. On s'est aperçu que ça ne marchait pas pour l'essentiel. Donc on était en train de basculer à une autre vision des choses qui est beaucoup plus proche. On essayait de mimer par des programmes informatiques, on essayait de mimer le comportement des neurones qui se renforcent ou s'affaiblissent suivant les connexions qu'ils ont avec d'autres neurones. Et on essayait de faire ça, c'est ce qu'on appelait après le deep learning, etc. Donc voilà, je m'intéressais à toutes ces choses-là. Mais on était dans une période où, les approches logicistes et désincarnées marchaient de moins en moins. Et donc, moi, je me demandais un peu comment sortir de ça. L'essence cognitive, c'est un monde énorme, et c'est un monde aussi qui est difficile d'embrasser entièrement. Et donc, en fait, j'étais à la recherche à ce moment-là d'une entrée qui me permette aussi de faire mon travail de sociologue, qui me permette de renouer avec moi ce qui m'intéressait en tant que sociologue, c'est-à-dire la vie des gens, éventuellement aussi la politique. Donc, j'étais dans cette salle-là, et puis, donc... Il s'est trouvé que j'ai découvert, parce qu'il y avait des appels d'offres de la MILT aussi, je m'intéressais aussi, oui. Il faut dire aussi que quand on parle de l'action, il y avait aussi une autre chose qui nous avait intéressé, mais qu'on n'avait pas non plus approfondi du point de vue des sentiments, c'est la question, ce qu'on appelle l'acrasia en philosophie. Alors ça, c'est un concept de philosophie qui vient d'Aristote, mais qu'on va retrouver ensuite chez beaucoup d'autres philosophes, chez Augustin, etc. C'est l'idée que mon meilleur jugement, c'est par exemple de manger un seul carré de chocolat. Parce que si je mange une barre, voire toute la tablette, je vais être malade. Hein. Donc je décide de manger qu'un carré de chocolat. Mais je mange toute la tablette une fois que je suis face au chocolat. Et comme dit Augustin, je connais le bien et je fais le mal. Alors, je ne sais pas si manger toute la tablette, c'est mal. Mais on a un modèle là qui est celui de la faiblesse de la volonté, le modèle de l'acrasia. Mon meilleur jugement me fait décider de faire A, et à froid comme ça. Mais quand je suis en situation et que j'ai la possibilité de faire A ou B, je fais ce qui est moins bien. Je sais bien que B c'est moins bien, je vais quand même faire B. Donc c'est une énigme en quelque sorte, c'est une énigme de la... C'est une énigme de la vie ordinaire qu'on peut tous expérimenter. Et c'est un peu comme ça que j'ai commencé à m'intéresser aux neurosciences de l'addiction, qui donnait une réponse à la question de l'acrasia, qui donnait une réponse, neurochimique ou neurobiologique à la question de l'acrasia, c'est-à-dire qui donnait une réponse empirique, d'une certaine façon, à des questions philosophiques, à une question qui était au départ... philosophique, mais qui avait également l'intérêt d'ouvrir sur tout un champ d'interrogations concernant le comportement humain. Donc c'est comme ça que j'en suis revenu, alors en particulier les émotions, les passions, mais la façon dont fonctionne le désir. Dans les situations d'addiction, de consommation de choses qu'on aime beaucoup et qui peuvent nous envahir au point qu'on va les consommer même si on sait qu'il ne faudrait pas, parce qu'elles vont nous rendre malades ou rendre malades les autres. Mais ça ouvrait ce modèle de l'addiction que j'ai découvert à partir... Bon, moi, j'ai découvert ça au tournant du siècle, hein, mais les travaux importants, ils datent des années 50 et ils ont été redécouverts à peu près à la même période, dans les années 90. Et voilà, donc je travaille sur ces bases-là, donc je vais pouvoir les développer si vous voulez, mais sauf si vous voulez avoir des précisions sur autre chose. Parce que c'est comme ça que c'est avec les neurosciences de l'addiction que je suis revenu, que je suis, disons, sorti des visions les plus abstraites de l'action, qui sont très intéressantes, hein, l'ethnométhodologie, la théorie de la communication, tout ça c'est excellent, mais qui ne font pas la place qu'elles devraient faire aux sentiments et aux émotions, sans lesquelles il est, en fait, et au désir en fait, hein, le désir c'est inclus dans les traités des passions. Même le plaisir, c'est aussi inclus, qui font pas la place que ces visions font pas la place qu'elles devraient faire à ces éléments qui sont pourtant centraux, non seulement dans les processus addictifs, hein, quand on mange trop de chocolat ou alors qu'on prend trop de cocaïne ou trop d'héroïne, trop d'alcool, etc., mais qui sont centraux dans beaucoup d'autres activités humaines où on fait trop, on consomme trop, on produit trop. on va trop loin dans des activités qui sont nuisibles, alors souvent à soi-même, mais aussi aux autres. Voilà, en gros, c'est ça qui a été le... Voilà. Est-ce que vous me suivez à peu près, là? Vous voulez pas intervenir un peu pour me redonner un peu
plus loin.
Pardon?
Allons plus loin.
Vous préférez? Il n'y a pas des objections à me faire, des...
Non, mais...
Allez-y.
Oui, non, plutôt qu'une objection, une demande, une explication. Je trouve très intéressant la façon dont, justement, dont vous racontez votre parcours, parce qu'en fait, ça donne de la continuité entre des courants qu'on serait tenté d'opposer. Et c'est vrai que toute la façon dont vous racontez votre vie, comme vous le dites vous-même, nous donne un fil qui nous fait rapprocher, on va dire rapidement, par exemple, Durkheim de l'ethnométhodologie. En vous écoutant, ça y est, là, il va nous parler de l'ethnométhodologie, parce qu'avec ce passage-là par sociogénétique, etc., etc., etc. Donc ça, c'est tout à fait intéressant. Mais la question donc, précise que je voulais poser, c'est justement par rapport à la question des émotions, donc qui échappe aussi à l'ethnométhodologie, et qui, d'une certaine façon, ouais, le constat qu'on peut faire d'après vous, mais plus généralement, c'est que cette question-là, elle a été finalement rejetée, on peut le dire comme ça, par la sociologie à travers l'ensemble de ses courants. Donc je voulais vous demander si vous aviez une explication sur ce que j'appelle un rejet, mais qui est peut-être...
Alors, est-ce que j'ai une explication? Ce qui est certain, c'est qu'il y a une explication du rejet des sciences de la vie par les sciences sociales. L'explication, c'est l'interprétation du darwinisme, souvent fausse, parce qu'on pense Darwin au travers de Spencer. Spencer qui était... Moi, j'ai tendance à dire que c'était un sale type. Hein, parce que je connais ses aventures avec George Eliot, je sais comment il l'a traité, etc. Je pense que c'était, à tout point de vue, un type pas intéressant, bien que ça soit le premier sociologue. C'est lui qui... Ah, c'est à lui qu'on doit l'idée de la survivance des plus aptes, etc. Voilà. Mais Darwin, c'est pas ça du tout. Je pense que, bon, d'abord, ça fait partie du background des sciences de la vie, c'est-à-dire que les modèles darwiniens, bon, sont à falsifier, mais ils ne l'ont pas été. C'est-à-dire, ça marche quand on regarde des colonies d'oiseaux sur une île, on voit comment les modèles darwiniens marchent. Hein, ça marche sur des colonies de microbes, etc. Alors, aujourd'hui, la théorie darwinienne est devenue très complexe, mais... Elle reste dominante. Une des complexités qui a été introduite aussi, une des innovations, c'est qu'elle a été prise en charge. Les sciences de la vie, elles ne sont pas pratiquées uniquement par des gens style Spencer. Elles sont pratiquées aussi par beaucoup de chercheuses en biologie qui sont des femmes et des féministes. Donc il y a tout un darwinisme, une anthropologie ou une sociologie biologique qui n'a rien à voir avec celle de Wilson, qui est une anthropologie en fait féminine. Je pense par exemple à un auteur que j'utilise beaucoup, qui est une américaine, une anthropologue qui s'appelle Sarah Dahl, qui a travaillé à la fois beaucoup sur la maternité dans le monde contemporain et beaucoup sur les guenons, sur les singes, etc. Et elle est très intéressante. Hein, c'est, donc voilà. Donc, une des raisons, peut-être c'est la raison, je ne sais pas, mais on a rejeté le darwinisme et les sciences de la vie, parce qu'effectivement, ce n'est pas séparable en l'état actuel des connaissances, à cause de l'idée qu'on se faisait du darwinisme social comme une façon de justifier l'ordre dominant, l'ordre patriarcal, l'ordre sexiste de la société. Donc, on a effectivement rejeté les sciences de la vie. Et moi, c'est effectivement par le biais des sciences de la vie et des neurosciences de l'addiction qui sont inscrites à la fois dans une connaissance de mécanismes internes au cerveau, mais aussi dans des interprétations de la psychologie évolutionniste que j'ai vraiment pu retrouver en fait les bases d'une, alors, d'une théorie des émotions, mais je dirais surtout le désir et le plaisir, hein, parce que c'est ou du bien-être, etc. On trouve dans les neurosciences de l'addiction et des émotions en général, hein, beaucoup d'éléments pour penser ça. Est-ce que c'est... Je ne sais pas si ça répond entièrement à votre question, parce que moi, c'est par ce biais-là que j'ai retrouvé la question des émotions. Mais... Après, on pourrait... Mais ça, je dis c'est un peu comme ça vient. Vous voyez quelqu'un comme Durkheim, par exemple. Durkheim, c'était... Il n'était pas... C'était un bourgeois académique. Je suppose qu'il était... je ne sais pas s'il y a un durkheimisme féministe aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une relecture... Est-ce qu'il y a des relectures féministes de Durkheim aujourd'hui? Parce que peut-être que je vais dire des choses fausses.
Il y a des émotions collectives chez Durkheim.
L'effervescence.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, oui, vous avez raison. Et ça fait une sociologie des émotions utilisable, développée, non?
Mais si on se réfère, par exemple...
Oui, les manières de sentir, oui, oui, bien sûr.
Si on se réfère, par exemple, à Goffman, tout ce que vous avez dit sur, à propos de Garfinkel et des émotions, on pourrait presque le dire de la même façon à propos de Goffman. L'émotion, elle intervient chez Goffman au moment où ça ne marche plus, quoi.
Oui, exactement.
Il y a l'incongruité que vous avez voilà. qui s'y a produit. Et en même temps, peut-être elle est plus en amont encore. La question est plus sensible encore chez Goffman, parce que ce dont il faut nous prémunir, justement, c'est d'une présence trop forte par le corps de ces émotions. Et pour autant, donc, on n'a pas...
Non, là où ce qui... En fait, on s'aperçoit que ce qui a inspiré, par exemple, certains collègues que j'avais au labo, qui pouvaient inspirer davantage, c'était l'œuvre de Mauss, par exemple, parce que c'est une œuvre anthropologique et qui ne faisait pas trop de séparation entre les aspects conceptuels, les aspects affectifs, ça marche ensemble. On ne peut pas décrire un potlatch de façon intellectuelle, ça n'a pas de sens. Il faut inclure tous les éléments de fierté. Tout ça. Bon. Et après, vous voyez, j'aime beaucoup les premiers travaux de Bourdieu sur les célibataires du Béarn. Et d'une certaine façon, on pourrait dire que là, il y a une session. Quand il les décrit là, au bord de la piste de danse, en train de rester planté là, sans trouver personne avec qui danser, etc. Qui est en fait l'archétype, enfin, c'est le symbole même de leur vie. Des cadets qui ne se marient pas, etc. Alors, premièrement, je pense que c'est une sociologie morale, clairement, qui n'est pas encore équipée par tout ce dont Bourdieu va s'équiper ultérieurement. C'est une sociologie existentielle, parce que quand on lit ces textes-là, on comprend très bien comment vivent ces gens, Et donc, il y a une dimension émotionnelle qui est très forte là-dedans. Mais est-ce qu'on a dans... Alors, les habitudes, on pourrait voir aussi... les habitudes, c'est des matrices de comportement qui valent pour tout, hein, pour se tenir à table, mais se tenir en situation de deuil, pour se tenir dans un mariage, etc. Bon, de toute façon, je ne veux pas, je ne fais pas ça actuellement et je n'ai pas le recul pour voir ça. Je ne cherche pas à dire que la sociologie, telle qu'on l'a pratiquée à la fin, au début des années 90, avait exclu les émotions. Ce qui est certain, c'est que les sciences sociales, surtout en France, on avait exclu les sciences de la vie. Ça, oui, je le défends clairement. Et ce qui est certain aussi, c'est que pour ce qui est de notre comment dire, de notre lieu de développement intellectuel avec mes collègues, etc., on était plus sur des modèles abstraits désincarnés que sur des modèles d'émotion. Et qu'en ce qui me concerne, ce qui m'a permis de sortir de ça, parce que ça a été le fait de me mettre à travailler sur les neurosciences de l'addiction. Donc j'ai lu la littérature, qui est une littérature de neurochimie, avec souvent des gens qui ont des visions très, très justes de la vie. Hein. Je pense que les articles importants qui ont été publiés au début des années 2000 décrivent très bien le fonctionnement des circuits dopaminergiques de la récompense qui poussent à désirer ardemment certains produits psychoactifs et les désirer tellement que lorsqu'on les consomme en trop grande abondance, on risque d'avoir des dérèglements durables des systèmes neuronaux qui assurent un équilibre de la motivation, de l'attention, etc., et devenir entièrement centré, focalisé sur eux, au point de perdre... de ne chercher que ça dans la vie, d'avoir des comportements compulsifs, de ne plus mesurer les conséquences de certaines recherches de consommation, ce qui correspond au tableau clinique de l'addiction. Je disais que ces chercheurs même qui décrivent ces mécanismes-là étaient en même temps très conscients que ces mécanismes-là, qui vont produire l'addiction chez les addicts, hein, ou chez les dépendants, chez les narcotiques anonymes aux États-Unis, on dit « My name is John, I am an addict ». Ici, on dit « Je m'appelle Jean, je suis dépendant ». Ces mêmes circuits donc qui produisent des pathologies, c'est des maladies. Quand on est addict, on va voir un psychiatre ou on va dans un groupe de parole parce qu'on n'arrive plus à s'en sortir, on est mal. Quand on en prend conscience, on est vraiment mal. Donc, ils décrivent les mécanismes dont on connaissait très bien la clinique, mais dont on ne connaissait pas les éléments neurochimiques. Alors, ils les décrivent, et en même temps, ils sont tout à fait, c'est ça que je veux dire, en même temps, ces chercheurs-là sont tout à fait conscients que ces mécanismes-là n'appartiennent pas qu'aux addicts, ils appartiennent à tout le monde. C'est-à-dire que quand... et ça, maintenant, pour les gens qui regardent un peu attentivement comment se passe... l'addiction sur Internet, addiction by design, comme disent enfin, certaines chercheuses, une anthropologue à propos des machines à sous, mais ça marche aussi. Quand vous avez une situation d'ennui, vous savez pas trop quoi faire, vous allez regarder votre boîte, vous allez regarder Facebook, c'est-à-dire que vous arrivez constamment à remplir le vide, constamment à remplir le vide. Et ça, on le sait parce qu'on a regardé des cerveaux de joueurs, on a regardé des cerveaux d'internautes, etc. On sait que les mécanismes qui sont propres à l'addiction concernent tous les produits addictifs, mais aussi des activités qui ne sont pas considérées en elles-mêmes comme addictives, comme manger, avoir des relations, qui peuvent le devenir peut-être, mais manger, avoir des relations sexuelles, jouer, faire du sport, travailler, hein, parce qu'il y a des groupes aussi de workaholics que j'ai visités, il y en a même eu à Paris, je ne sais pas s'ils existent encore. Et donc, ces travaux, ils montrent des mécanismes qui s'emballent chez certains sujets, les toxicos, les alcoolos, et tous ces gens-là, etc., mais qui existent chez tout le monde, voilà. Y compris les gens qui investissent beaucoup dans leur travail, dans le fait de faire de l'argent, dans le fait de faire toutes sortes de choses dont on pourra parler peut-être après. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que ça nous donne, ça ? Ça nous donne une sorte de vision interne du fonctionnement d'un organe, en fait. Parce que, bon, le cerveau, c'est un organe. Bon, l'estomac, c'est un organe qui a été fabriqué par l'évolution naturelle. Les poumons aussi, ce sont des organes qui nous permettent de synthétiser la nourriture, d'amener l'oxygène qui est indispensable à notre survie dans le sang, etc. Ça, c'est pour les poumons, etc. Le cerveau, c'est un organe qui nous permet de désirer, d'être content, éventuellement d'être bien, d'avoir des jouissances. Et en particulier au travers de certains... C'est en ça que je redécouvrais le darwinisme. C'est en ça que c'est intéressant, le darwinisme. C'est que dans les développements psychologie évolutionnaire par rapport à ces mécanismes du désir, du plaisir et de l'addiction, l'idée qui domine, c'est que ce sont des mécanismes qui ont été fabriqués par l'évolution naturelle, comme ont été fabriqués d'autres mécanismes, non pas à des fins proprement de plaisir ou de ceci ou de cela, mais sont liés d'abord à la rencontre sexuelle, puisque on sait aujourd'hui que les mécanismes de l'attraction sexuelle et du désir sexuel agissent sur les mêmes circuits de la récompense et du plaisir que ceux qui concernent les drogues. Donc d'abord sur l'attraction et la satisfaction sexuelle, mais aussi sur l'attachement parental. Donc les deux sont parce qu'on a scanné les cerveaux de mères, mais aussi de pères qui s'occupent de leurs enfants, etc. On a retrouvé les mécanismes. Je citais Sarah Dye tout à l'heure. Elle est très intéressante parce qu'elle explique la voie humaine, elle dit la voie lactée, parce que c'est au travers de ce désir-là, de ce plaisir-là de nourrir un petit que se développe la capacité de désirer. Pour elle, c'est même plus important que c'est évolutionniste et darwinien dans la mesure où ceux qui n'ont pas ça, on n'est pas les descendants de ceux qui ne l'ont pas eu, on est les descendants aujourd'hui de ceux qui ont réussi à être suffisamment, d'avoir des adultes qui se sont occupés d'eux, qui ont pu les nourrir, parce que sinon on ne serait pas leurs descendants, ils n'auraient pas eu de descendants. Donc c'est ça cette idée évolutionniste. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui, nous, les descendants d'humains qui ont survécu parce qu'ils ont eu des partenaires sexuels, ils ont eu des parents pour s'occuper d'eux, ils ont eu des groupes avec qui faire des alliances pour faire face aux prédateurs. Voilà. Donc c'est une sorte de matrice. Les neurosciences, à mon avis, ouvre à une connaissance des éléments qui ont des éléments historiques dans l'histoire de l'humanité qui nous ont conduits à devenir les êtres désirants qu'on est, c'est-à-dire à désirer du sexe, de la nourriture, des boissons, des attachements, des amis, des drogues, etc. Et voilà, pour moi, c'est un modèle du comportement humain qui réintroduit donc centralement, avec un support malgré tout à la fois évolutionnaire et puis neurochimique, la question des sentiments. Je réponds à peu près à ce que. Après, je peux en dire aussi, je peux en dire un petit peu plus. Donc voilà, parce que votre question c'était ça, qu'est-ce qui a empêché la sociologie de s'intéresser aux émotions? Alors j'ai pas de réponse à cette question générale, parce que c'est peut-être pas non plus entièrement vrai, si on regarde les auteurs on s'aperçoit que certains s'y sont intéressés plus que d'autres, etc. Ce qui est certain, c'est que la sociologie, les sciences sociales ont délaissé les sciences de la vie, elles ont eu tort, et en ce qui me concerne, il y a eu un moment où je m'intéressais guère aux émotions parce qu'on était dans des modèles très abstraits, je résume, hein, et où l'intérêt pour les questions d'addiction, donc de l'action qui ne suit pas le meilleur raisonnement, parce que c'est ça, elle ne suit pas le meilleur raisonnement. L'action n'est pas toujours rationnelle. Enfin, elle n'a pas la rationalité qu'on voudrait qu'elle ait. On a peut-être une autre, mais voilà. Donc, en éclairant l'action, les neurosciences de l'addiction nous donnaient une sorte de scénario sur l'histoire des individus, sur l'histoire des humains, sur leur capacité de désirer, sur leur capacité d'aimer, d'être motivé à faire des choses, etc. Donc, et du coup, ça, c'est, on est entièrement dans le domaine des émotions. J'ajoute encore une chose par rapport au désir. J'ai dit un mot sur la tradition utilitariste, mais il y a une longue tradition philosophique qui associe l'utilité avec le plaisir. Y compris des philosophes qu'on peut apprécier par ailleurs, par exemple pour leur matérialisme, je pense à un philosophe comme Spinoza, mais le plaisir et l'utilité, pour un philosophe comme Spinoza, c'est pareil. L'homme cherche son utile, il cherche son plaisir, il cherche son utile. Voilà. Et le plaisir et l'utile, c'est pareil. Le problème des utilitaristes, c'est d'avoir une vision sociale des utilités, que ce soit non pas les plaisirs de chacun, mais la somme de bonheur. Or, je pense que l'un des intérêts des neurosciences de l'addiction, c'est de nous montrer que cette identification du plaisir et de l'utilité, elle est fausse, elle est tout simplement fausse. Parce que... prenons l'alcool, par exemple. L'alcool, c'est bon. Ça peut rendre alcoolique. C'est pas bon pour le corps, mais c'est bon pour la gaieté. Voilà. Mais... c'est pas utile. On peut très bien faire ce qu'on a à faire. Si on n'a jamais bu, on fera pareil. Peut-être pas exactement pareil, mais c'est pas utile. Ça n'a pas d'utilité. A fortiori, si on devient alcoolique et qu'on a besoin de boire de l'alcool régulièrement, parce que sinon on n'arrive même plus à se lever, etc., là on peut dire que ça a une utilité. C'est qu'au moins, grâce en buvant dès le matin, j'arrive à faire ce que j'ai à faire. Mais c'est une drôle d'utilité. Et a fortiori, lorsque le fait d'avoir une dépendance très forte vous conduit à des conséquences extrêmement nuisibles pour vous-même et pour les autres. En termes de somme de bonheur pour vous-même et somme de bonheur pour les autres. Et pourtant, vous le recherchez de façon intense. Si vous voulez, la logique, sans ça aussi que ça rejoint la sociologie morale telle que j'ai essayé de l'exposer tout à l'heure, c'est-à-dire que le désir tel qu'il fonctionne chez un individu et qui va lui donner des satisfactions, des récompenses, des rewards, on dit, dans le langage des neurosciences, ce qui va lui donner des rewards, c'est quelque chose qui lui est propre. Tout le monde ne désire pas les mêmes choses, etc. Et qui, très souvent, peut s'opposer à l'utilité. Parce que l'utilité, elle va dépendre du meilleur jugement. Tandis que la satisfaction d'un désir ne dépend pas du meilleur jugement. Alors, ni de soi-même, ni souvent des autres. Donc ça, c'est très important parce que, bon, alors si on raisonne en termes de somme de bonheur, vous voyez, le fait que, bon, dans l'idéologie néoconservatrice, on est considéré que la seule justification éthique du comportement économique, c'était de protéger la propriété de soi et des fruits de son travail, alors c'était une justification si on veut, mais en même temps ça excluait toutes sortes d'autres utilités qui sont des utilités sociales. Voilà, j'arrête un petit peu.